Louez et remerciez soit le Seigneur aussi pour cet après-midi que nous pouvons à nouveau passer en sa présence. Chaque parole qui est lue va nous va droit au cœur. Nous sommes heureux de pouvoir y croire et de l'accepter. Nous sommes également reconnaissants pour ce week-end, car il est certain que Dieu nous a parlé à tous par sa parole et qu'elle ne reviendra pas vide, sans effet à vide, mais qu'elle produira l'effet pour lequel elle a été envoyée. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont pu venir. Nous sommes aussi particulièrement reconnaissants à nos frères et sœurs francophones de venir et nous leur promettons que nous viendrons aussi bientôt chez eux. Cet après-midi, nous serons très brefs. Nous avons entendu une telle abondance de pensées, de précieuses pensées de Dieu. Et si je vous demandais aujourd'hui, qui d'entre vous a déjà lu cette prédication avec un tel regard, avec un tel profit intérieur, lorsque nous l'avons lu ensemble hier soir et ce matin ensemble? Nous dirions certainement tous, c'est vrai, je l'ai lu, mais je n'en ai pas tiré tant de choses que ça, n'est-ce pas? Oui, oui, ce sera certainement le cas, oui. Il y a même la sœur infirmière qui dit oui. C'est vraiment ici. Nous sommes sincères ici en cet endroit et nous sommes reconnaissants. Est-ce que ce n'est pas ainsi aussi avec la Sainte Écriture? Est-ce que nous ne lisons pas toujours de la même Sainte Écriture? Nous lisons toujours de la même vieille parole. Encore et encore, combien de fois nous avons lu les Saintes Écritures? Je suis allé une fois sur l'île de Patmos. Certains d'entre vous le savent et je ne sais pas exactement combien de fois j'y ai lu l'Apocalypse. En tout cas, c'était aussi dans la grotte où se trouvait Jean à l'époque. La même grotte. Mais pas seulement cela. J'ai lu, mais en arrivant à la fin du chapitre 22, j'ai recommencé avec le chapitre 1 et j'ai lu. J'ai relu. Et aujourd'hui, je constate avec reconnaissance que seulement par la lecture, cela ne suffit pas. Le temps doit venir. Et l'Esprit de Dieu doit révéler la lecture. Ça, nous l'avons également insisté sur ce point dans le service de Frère Branham. Les choses aussi sont allées de clarté en clarté et de connaissance en connaissance. Nous en sommes également reconnaissants. Il n'y a qu'une seule personne qui est parfaite. Et ça, c'est Dieu qui est parfait dans son savoir, dans sa connaissance, c'est Dieu. Il ne pourra jamais apprendre davantage et grandir dans la connaissance. Il sait tout et il saura tout pour l'éternité. J'ai déjà parlé des réunions en Afrique. Entre 3 et 5 000 personnes ont entendu la parole de Dieu. Je m'y suis un peu épuisé. J'ai prêché avec trop de force. Mais plus la foule est grande, plus... N'est-ce pas? On doit prêcher avec force et puissance. Mais quand je transpire déjà, si je transpire déjà ici, alors que pensez-vous, qu'est-ce qui se passe alors là-bas? Et bien sûr, cela nous affecte aussi un peu sur le plan terrestre, mais Dieu aussi a pris soin de ça. On se renouvelle toujours par la grâce de Dieu, même dans le domaine terrestre, les forces sont renouvelées. Lorsque cet évêque a dit à Nairobi, là-bas, il disait que Nairobi ne sera plus l'ancienne Nairobi à partir de ces jours, depuis ces réunions. J'étais reconnaissant car je savais que Dieu avait effectivement fait de grandes choses pour beaucoup de personnes pendant les réunions. Je voudrais lire très brièvement quelques passages de l'Écriture qui traitent de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous l'avons souligné, c'est ainsi que nous le croyons de tout cœur. La parole de Dieu est devenue précieuse par-dessus tout. Et dans le psaume 119, au verset 49, il est écrit, psaume 119, verset 49, « Garde fidèlement à ton esclave serviteur ta parole en laquelle tu m'as fait espérer. C'est là ma consolation dans ma misère, que ta parole m'a de nouveau vivifié. Il y a un autre passage où il est écrit, l'Éternel a envoyé sa parole et les a guéris. Psaume 119, verset 105, il est écrit, « Ta parole est ma lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Cette parole nous rappelle ce que Pierre a écrit. Je suis en train de l'ouvrir. Elle devrait être écrite dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Vous êtes en effet né de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, à savoir de la parole vivante et éternelle de Dieu. Dans ces jours, nous avons entendu parler de la semence divine qui est déposée dans nos cœurs, et cette semence est la parole de Dieu. Sans semence, il n'y a pas de naissance. Pour avoir une récolte, il faut semer. La multiplication en général, tout vient par la semence, même dans le domaine spirituel. La parole est la semence. Cette semence divine a été déposée en nous et produit selon son espèce. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 25, il est écrit, « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, c'est ici la parole qui vous a été annoncée comme message de salut. » Nous avons affaire à Dieu et à la parole de Dieu, au glorieux message du salut de Jésus-Christ, notre Seigneur, dans lequel l'offre de grâce est présentée à l'humanité. Ensuite, il y a la parole dans 2 Pierre, chapitre 1, 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Et d'autant plus ferme est pour nous la parole prophétique que nous possédons. Et vous faites bien de prendre garde à celle-ci, comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le plein jour paraisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Toujours de nouveau, nous lisons sans cesse la parole de Dieu. Et nous croyons aussi ce que Paul a écrit à son collaborateur Timothée dans 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. Verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte parce qu'il présente avec exactitude la parole de la vérité. Cela aussi doit être garanti. Non seulement avoir la parole de Dieu, mais la classer correctement, la placer à la place qui lui revient, la mettre dans le bon contexte. Et c'est ce que Timothée devait faire. Paul en donne la raison dans 2 Timothée, au chapitre 4, avec des paroles très sérieuses. Je crois que c'est l'avertissement à prendre au sérieux pour notre époque que nous trouvons ici, écrit. 2 Timothée, chapitre 4, du verset 1. Je t'en conjure devant la face de Dieu et du Christ Jésus qui jugera les vivants et les morts dans les temps à venir à son apparition et à son règne. Prêche la parole, présente-la, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, corrige, avertit avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas l'enseignement saint, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, reste sobre à tout égard. Prends sur toi les souffrances. Fais bien l'œuvre d'un prédicateur du message du salut et donne-toi pleinement à l'accomplissement de ton service. Nous remarquons combien il était sérieux. Et c'était important pour l'apôtre que la prédication de la parole de Dieu soit maintenue telle qu'elle lui a été donnée par Dieu. Je l'ai déjà remarqué hier soir dans Galates chapitre 1, Paul y a fait référence. Et il écrit ici au verset 11, Galates 1, verset 11. Je vous fais remarquer en effet, frères, que le message du salut sans erreur que j'ai annoncé avec assurance n'est pas de l'homme et à la manière des hommes. En effet, je ne l'ai pas non plus reçu d'un homme ni appris, non pris des cours, mais par une révélation de Jésus-Christ. Tout cela sont des versets bibliques très importants pour nous que nous devons prendre à cœur, surtout si l'on considère qu'il y a tant d'interprétations, non seulement dans les cercles que nous connaissons, mais aussi dans le monde entier, dans toutes les dénominations. Il y a assez d'interprétations. Combien ne croient plus du tout que Jésus-Christ est né vierge, est né d'une vierge et qu'il a été engendré par l'Esprit, etc. Le fondement sur lequel reposait l'Église primitive a été remplacé depuis longtemps par une théologie libérale. Mais que Dieu soit remercié de ce qu'il y a encore des gens qui se réjouissent du fait que la parole de Dieu soit restée la parole de Dieu et que nous puissions la recevoir et la croire de tout notre cœur et qu'un lien avec cette parole ait été rétabli en nous par l'Esprit de Dieu. Lorsque Jean a été exilé sur l'île de Patmos, c'était aussi à cause de la parole de Dieu. Je lis dans Apocalypse, chapitre 1, verset 9. « Moi, Jean, votre frère et compagnon, qui est part avec vous à la tribulation, au règne et à la persévérance, en Christ, en Jésus, pardon. J'étais venu dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Il s'agissait simplement que la parole de Dieu soit placée sur le chandelier, soit mise en lumière, que la parole de Dieu soit préservée, conservée dans sa véracité, et qu'elle soit mise par écrit afin que nous l'ayons. Il s'agissait donc pour les prophètes et aussi les apôtres. Il s'agissait toujours de la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Cela aussi se vérifiera. Si la parole de Dieu, donc cela aussi sera prouvé vrai, que si la parole de Dieu est en nous comme une semence divine, alors nous aussi, nous aurons part à ce que Dieu a promis dans sa parole et nous verrons sa gloire. Je ne crois pas que Dieu ait trompé un homme jusqu'à présent et il ne le fera pas non plus dans l'éternité. C'est au vainqueur qu'il a promis la gloire. Et qu'est-ce qui est écrit des vainqueurs? Je vais vous le lire dans Apocalypse. Ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Qui connaissent cette écriture, Apocalypse, chapitre 12, ça devrait être ici, et là, ici au verset 11. Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ceux-là ont vaincu, donc lui, l'ennemi, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Réjouissez-vous donc, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est maintenant descendu vers vous, animé d'une violente colère, sachant que son temps est compté. Et bien cela entre à nouveau dans un tout autre domaine, à savoir dans la phase où le Christ fait monter les siens dans la gloire, alors il y a un conflit. Nous l'avons tous compris depuis longtemps. Apocalypse 12 et le verset 7 décrivent cela comme le combat final. Le verset 7, donc, il s'éleva alors dans le ciel un combat. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Verset 8, mais ils ne remportèrent pas la victoire et leur séjour ne fut plus prolongé dans le ciel. Ainsi donc, le grand dragon, le serpent ancien appelé Diable et Satan, celui qui séduit le monde entier, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui criait, « Maintenant le salut, la puissance et la royauté sont venus à notre Dieu et la domination à son oin, car il est tombé l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Pour cela aussi, nous sommes déjà reconnaissants. Aujourd'hui, au moment où l'époux fait monter son épouse, il ne luttera plus contre les puissances ennemies. Il a remporté sa victoire à Golgotha. Il ne rencontrera plus l'ennemi une seconde fois, comme ce fut le cas avec David et Goliath. C'était un contrat entre les deux parties. L'une sort d'ici et l'autre de chez nous. Deux mèneront le combat pour tous les autres. Le camp qui succombe sera au service de l'autre. C'est ainsi que Christ, le fils de David, a rencontré l'ennemi. Cette avancée pour nous tous a mené le combat et nous a donné la victoire. Les forces de l'ennemi doivent nous être soumises. Mais nous savons que l'ennemi a encore accès et que les puissances règnent encore, n'est-ce pas, dans le domaine des airs, nous le savons tous. Mais au moment où Christ, le Sauveur, le Rédempteur, voudra prendre les racheter dans la gloire, le vieil ennemi fera encore obstacle. Et c'est alors que Michel, l'ange prince, intervient avec toute son armée et dit, c'est fini. Descendez maintenant. Et l'ennemi descend avec toute son armée. Et le Christ monte avec tous les siens. Et alors nous n'entendrons et ne verrons plus rien de toutes ces puissances ennemies. Ce sera une belle chose. L'ennemi et les siens descendent. Christ montera avec les siens. Ici-bas, les sots iront très mal. Là-haut, ce sera la gloire. Car ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et ce qui n'est pas entré dans le cœur de l'homme, ce sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, et nous pouvons en faire partie par grâce. Maintenant, je lis encore un passage biblique du dernier chapitre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 22, ici c'est écrit au verset 6. Puis il me dit, ces paroles sont sûres et véritable. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour faire connaître à ses esclaves serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. La parole est sûre et véritable. La parole est certaine. Nous pouvons nous y fier. Comme nous l'avons souvent souligné, les Écritures ne peuvent pas être brisées, annulées. Tout ce que Dieu a dit est éternellement vrai et s'accomplira comme il l'a ordonné. Seulement Dieu a un calendrier et nous ferions bien de ne pas nous précipiter. Mais nous devons veiller et prier pour suivre le Seigneur et ce qu'il fait. Combien de prophètes et d'apôtres ont déjà attendu l'achèvement, la perfection que nous attendons maintenant. Des milliers d'années se sont écoulées. Et depuis la première venue du Christ, encore près de 2000 ans, et les non-croyants peuvent dire oui. Tous ces croyants qui ont toujours attendu que le Seigneur vienne, ne se sont-ils pas rendus ridicules? Pas du tout, pas du tout. De même, c'est même le contraire qui est vrai. Ils ont témoigné par leur attente qu'il y a en eux une espérance vivante de participer à la résurrection. Et lorsque l'achèvement viendra, la perfection, tous les hommes de tous les âges, tous les croyants de tous les âges seront en effet ressuscités. Ressusciteront ensemble, nous rencontrerons le Seigneur. Et si je pouvais demander à Pierre, à Jean, à Paul, écoutez, écoute mon frère, n'as-tu pas été déçu? Tu attendais pourtant le retour du Seigneur de ton vivant. Jean, Pierre, Paul, dites-moi, qu'est-ce que ça vous a fait de savoir que vous alliez rentrer chez vous sans avoir vu la venue du Seigneur, rentrer à la maison, aller dans la... Et la transformation, le changement de votre corps, vous l'avez écrit, vous avez prêché là-dessus, vous avez écrit là-dessus, vous l'avez attendu. Et maintenant, au dernier jour, laissez-moi vous interroger. Quel était votre cœur en ce dernier jour de votre vie ici-bas? L'un me dirait, je me sentais bien dans le Seigneur. L'autre dirait, c'était une joie inexprimable et glorieuse en moi. Puis, le monsieur sceptique vient et demande, oui, mais dis-moi, tu as bien compté le Seigneur, tu as bien compté sur le Seigneur qu'il reviendra en ton temps, car tu as même écrit que nous ne nous endormirions pas tous. Oh Paul, mais nous serons tous changés. Alors, qu'est-ce que nous devons faire de la parole que tu as écrite? Nous croyons que tu as été inspiré par l'Esprit de Dieu. Et maintenant, qu'en est-il? Ah, comme il a pu dire avec la dernière force, comptez sur cela. Ce que j'ai écrit s'accomplira au temps que Dieu a fixé. Personne ne pourrait me convaincre qu'un prophète ou qu'un apôtre ait jamais vaciller ou trembler. Vous connaissez ce seul passage qui a été interprété de la sorte. En effet, le fait que Jean, une fois jeté en prison, a simplement envoyé ses disciples, Jean-Baptiste donc, ses disciples demander à Jésus, « Est-ce toi qui dois venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Il y a bien sûr assez de gens qui pensent que Jean a douté. Moi, je suis d'une autre opinion. Et les Saintes Écritures disent, n'est-ce pas, que chacun soit sûr de son opinion. Et moi aussi, je suis sûr de mon opinion. Jean était rempli de l'Esprit Saint dès sa naissance. Jean a entendu la voix de celui qui l'a envoyé. Sur qui tu vois l'Esprit descendre comme sous la forme d'une colombe, c'est lui. Jean a reçu des instructions. Un signe lui a été donné et lui a été montré. Et il avait dit auparavant, très clairement, « Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après moi, qui était avant moi, qui est plus grand que moi, celui que je suis pas, celui dont je ne suis pas digne de délier les cordons de ses souliers, c'est lui qui vous baptisera l'Esprit de feu. » Et lorsque l'agneau de Dieu, notre Sauveur, vint en ce jour-là, alors là, Jean a dit avec conviction, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui porte le péché du monde. » Si nous mettons tous ces témoignages de cet homme de Dieu ainsi l'un après l'autre, ou l'un sous l'autre, ils ont un très grand poids. Je vais vous dire ce qui s'est passé en Jean. Beaucoup s'étaient attachés à Jean de telle ou telle manière. Il était en prison. Et ses disciples ne s'étaient pas encore détachés de lui. Et maintenant, pour justement suivre le Seigneur Jésus qu'il avait présenté, certains étaient justement restés disciples de Jean plutôt que de devenir disciples de Jésus. Il avait donc dit, c'est pour ça qu'il a dit, allez donc lui demander si c'est bien lui. En d'autres termes, si vous avez du mal à croire tout ce que j'ai dit, alors allez lui demander vous-même. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont allés et ils ont reçu une belle réponse. Allez dire à Jean, dites-lui tout ce qui se passe ici. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Jean a pu lui-même alors certainement leur montrer du prophète Ésaïe, chapitre 35. Maintenant, écoutez enfin ce que j'ai dit. Quand le Messie viendra, les aveugles verront, les boiteux marcheront. La langue du muet poussera des cris de joie. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 35. Le Seigneur a donc donné une réponse biblique et les gens qui ont demandé ont eu leur réponse. Lorsque l'on lit la parole de Dieu, il faut lire attentivement tous les passages relatifs à un sujet donné afin d'obtenir ensuite la bonne réponse. Non, les prophètes et les apôtres n'ont pas douté. Bien au contraire, ils ont témoigné de la vérité car la parole leur avait été adressée. Ils étaient devenus une partie intégrante de la parole. Et c'est pourquoi le psaume, je crois que c'est le psaume 82 ou 86, dit que la parole leur fut adressée et qu'ils furent appelés Dieu, qu'ils furent appelés des dieux. Et de tels hommes ont témoigné. Mais le monde n'était pas digne d'eux. Nous qui vivons aujourd'hui, nous sommes reconnaissants dans le Seigneur, au Seigneur, d'avoir l'Ancien et le Nouveau Testament. Et que Dieu nous ait donné la lumière et la clarté, une vue d'ensemble et une introduction dans l'ensemble de son plan de salut. Et ça, nous l'avons dit parfois, c'est précisément parce que le temps est venu que Dieu a révélé toutes ces choses. Il y avait des gens qui en savaient plus que nous, mais parce que le temps est maintenant là, il a plu au Seigneur de rendre sa parole grande et glorieuse, de révéler les mystères cachés. Et que le Seigneur soit remercié de ce qu'il y a des gens qui peuvent croire de tout cœur ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus a dit que celui qui a des oreilles entende. Et ensuite, toujours dans Apocalypse 2 et chapitre 3, les exhortations suivantes, que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit dit aux églises. Résumons. Ce week-end, Dieu a eu pitié de nous. Il nous a parlé par sa parole. Il nous a fait voir à nouveau ce qui est important. Je pense que nous serons richement bénis en repartant. Et avec nous tous, ceux qui entendront ce qui a été lu, dit et présenté ici. Eux aussi remercieront Dieu du fond du cœur. Il n'y avait tout simplement rien à ajouter à ce que nous avons lu hier soir et ce matin. C'était complet, c'était terminé, c'était clos. Ce qui est important, c'est que s'accomplisse maintenant ce que le prophète Ésaïe a écrit. L'Éternel a scellé les instructions dans le cœur de ses disciples. Éternel, scelle tes instructions dans le cœur de tes disciples. C'est-à-dire que toutes les instructions, que tous les enseignements, tout ce qui nous est donné par Dieu à partir de la parole, par la parole de Dieu, par sa parole, que cela soit scellé dans notre cœur, que nous le portions, que nous le repassons dans nos cœurs et le conservons et que l'ennemi n'ait aucune part, aucun droit sur nous. Au contraire, bien au contraire, que nous louions une fois le nom de l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur. Ah, je pense justement à ce qu'a écrit une sœur très chère qui est partie, qui est parmi nous cet après-midi. Permettez-moi de lire ce sera une bénédiction pour nous tous. Je ne lis que la deuxième page de la carte. Tu as beaucoup de gens qui se tiennent derrière toi dans la prière. Mon cœur est plein de reconnaissance pour ce que le Seigneur fait maintenant. Quand sa parole est prononcée, alors mon cœur brûle à tel point que parfois je ne peux même pas le supporter, à peine le supporter. Et j'aimerais qu'il y ait plus de vie dans nos rangs. C'est notre souhait à tous. Et qu'avons-nous à dire à ce sujet? En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Si nous l'avons reçue, nous avons reçu la vie. Mais il faut qu'elle nous soit donnée pour qu'elle puisse aussi se manifester. J'attends le week-end avec impatience. Les week-ends avec impatience. Que le Seigneur se sente bien au milieu de nous et qu'il vienne, à ce qu'il lui revienne plein droit. N'est-ce pas là notre cri et notre souhait le plus cher? N'aurions-nous pas tous pu écrire le même texte que ce sera écrit sur cette carte? Que le Seigneur se sente bien au milieu de nous, dans notre cœur. À partir de maintenant, nous voulons simplement croire. Frère Schmitt a lu la parole de la crainte du Seigneur, qui est le commencement de la sagesse, et a aussi tout de suite fait la différence entre la crainte et la révérence. La crainte et la crainte de Dieu, c'est une grande différence. Nous ne sommes pas ici dans la crainte d'un châtiment, nous sommes ici dans la crainte du Dieu vivant, devant le Dieu vivant qui a pris sur lui notre condamnation en Jésus-Christ notre Seigneur. Car la crainte n'est pas dans l'amour, mais la crainte devant le Dieu Tout-Puissant sera dans le cœur de tous ceux qui craignent Dieu. Et la crainte de Dieu, pas la crainte des hommes, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Craignons Dieu, aimons et faisons confiance à Dieu. N'ayons pas peur de lui, mais avoir de la crainte devant lui, le respecter, l'aimer. Il fera toutes choses bien, lui faire confiance, il fera toutes choses bien. Louer et exalter son glorieux nom. Amen. Avançons et offrons ensemble au Seigneur, avec le cœur ouvert, la bouche ouverte, des remerciements pour ce qu'il a fait.